Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourisettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. La semaine dernière, j'avais la très grande joie de recevoir Christelle Hubert, la fondatrice et dirigeante d'1-2-3 Montessori, une boutique de matériel Montessori française. Matériel Montessori à assembler et finir soi-même, peindre, etc. Et comme notre conversation a commencé à durer très longtemps, j'ai préféré la couper en 2 épisodes. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous recommande d'écouter la première partie. Le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Et comme ça, vous pourrez prendre la conversation là où nous nous sommes arrêtés. Voilà, et si vous avez déjà écouté la première partie, eh bien je vous souhaite une très bonne écoute de ce nouvel épisode. Alors justement, je sais que tu as une posture qui est très ouverte parce que tu travailles depuis toujours, tu t'es formée auprès de différents endroits et tu travailles depuis toujours auprès de, enfin, avec différents formateurs. Je sais d'ailleurs tu proposes même parfois différentes options pour un même matériel. Par exemple, les boîtes de grammaire, c'est toujours une pomme de discorde dans le milieu Montessori. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces boîtes de grammaire, des différents cours? Alors,
oui, alors j'ai été formée. Alors, avant même les boîtes de grammaire, il y a les symboles. Parce qu'à la source, il y a une interversion entre le bleu ciel à la source, c'est l'adjectif. Et le déterminant est en bleu marine, alors que pour tous les autres, le bleu ciel, c'est pour le déterminant, et l'adjectif est en bleu marine. Alors, j'ai fait les deux. Comme ça, chacun trouve son... Alors, en ce qui concerne les boîtes de grammaire, j'avoue que j'ai été formée à la fois sur les boîtes de grammaire avec les couleurs de l'AMI, et puis ma dernière formatrice... Elle disait que c'était une idée curieuse de faire comme ça. Et concrètement, avec une petite fille dyslexique, dysorthographique, dysgraphique, tout ce que vous voulez, j'ai trouvé beaucoup plus simple de pas induire un changement de couleur partiel. Ça m'a pas. J'ai trouvé que c'était plus cohérent de rester dans la même base, et sachant qu'en même temps, donc je m'occupe de ma fille, et puis j'ai fait beaucoup de soutien scolaire, et quand on arrive avec des enfants qui sont issus de l'école, qui ont jamais vu ces histoires de couleurs, ils s'en fichent complètement, en fait. Donc il faut appeler les choses par leur nom. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de changer les couleurs pour cette étape-là? Eux, ils utilisent avec les noms. Et ils sont passés au-delà, en fait, de ces couleurs. Alors, je veux pas de débat. Si vous voulez les couleurs de l'AMI, vous avez les couleurs de l'AMI chez moi. Et si vous préférez rester avec les couleurs de la grammaire, vous restez avec les couleurs de la grammaire. Voilà.
Et ça, ça impose un tri entre les couleurs qui ont une symbolique, qui ont un sens particulier, par exemple. Les symboles de grammaire. J'ai les restes d'un webinaire à côté de moi. Voilà, pour le nom, on a la pyramide noire. Le noir, c'est la couleur du charbon. Maria Montessori l'avait choisi pour montrer l'ancienneté du nom, que c'était la première. Alors, ma pyramide est un tétraèdre, hein, c'est une faute, mais c'est ce que j'ai. Donc. Donc cette couleur, elle a de l'importance. Le rouge pour le verbe, comme le feu qui bouge. Ces couleurs-là, elles ont de l'importance. C'est vrai que le bleu clair ou le bleu foncé... En revanche, ça n'a pas de sens. Donc, tu vois, on a d'un côté.
Oui. Je crois que la plus grosse différence, c'est la conjonction qui passe de rose à jaune, le pronom qui passe.
Pour les boîtes de grammaire. Oui, j'étais partie sur les symboles, effectivement. Oui. Pour les symboles, il y a les deux interversions, bleu clair ou bleu foncé, pour le déterminant et l'adjectif.
Voilà.
Ces couleurs-là, elles n'ont pas de sens particulier, il faut les distinguer.
De fait, dans les boîtes, dans les couleurs de l'AMI, le noir et le rouge, ils restent. Ils sont pas changés, il me semble.
C'est possible. Donc, je travaille pas avec ces couleurs-là.
Oui, mais je crois que le noir et le rouge, ils bougent pas. C'est la conjonction, la préposition et le pronom. C'est les natures de mots sur lesquelles il y a... Qui sont juste inversées deux par deux.
Oui.
Bon, voilà. Je sais plus quels étaient les arguments de ma première formatrice. Et pour
c'est
moi...
C'est un débat...
Voilà.
Massif. Je sais qu'il y a des échanges entre formateurs qui sont loin d'être finis, mais bon. Et en même temps, donc tu as cette ouverture d'esprit de dire, ben voilà, quand ça n'a pas de... Quand les arguments s'entendent des deux côtés, ben je propose les deux options. Et en même temps, à certains moments, il y a des choses qu'on t'a demandé, je crois, et que tu as refusé de produire, non ?
Oui, oui. Alors dernièrement, on m'a demandé le grand alphabet. Alors moi, le grand alphabet, j'ai mis longtemps à le proposer. Voilà. C'était un matériel que je trouvais compliqué. Et puis, il m'avait été montré en formation avec des lettres très, très grandes.
Ah oui.
Et il me semble que les lettres étaient vraiment très grandes. Et puis, il se trouve que j'avais une fille. Ma fille avait des problèmes de poursuite oculaire. Et donc, quand elle a écrit avec ce grand alphabet, ben, la lecture venait pas du tout. Parce que comme son œil était sans cesse ramené au départ, parce qu'il n'avait pas de poursuite oculaire, et ben, c'était très gênant. Et donc, assez rapidement, j'ai une amie qui m'a dit « Non, mais passe au petit alphabet, tu verras, ça ira mieux. » Et je suis passée au petit alphabet. Et du coup, j'étais coincée sur ce grand alphabet qui est, à mon sens, un peu grand quand on prend l'interligne. Je crois que l'interligne était de 5 ou 6 centimètres. Et moi, le mien, il est moins. Oh, je ne me rappelle plus. Je dis peut-être des bêtises, mais c'était vraiment très, très grand. Et puis, il y avait aussi le fait que les lettres se lient ou pas, que...
Oui. Voilà. Boucle ou pas.
Boucle ou pas. Alors, boucle, si, il y avait des boucles quand même dans l'alphabet que j'avais utilisé à l'origine.
Non, tout ça aussi, ce sont des débats, justement. Est-ce qu'il faut mettre des œilletons, pas d'œilletons,
Justement, et à ce moment-là, j'ai beaucoup écouté des débats et par rapport à la police du mot.
Oui.
Par rapport au geste d'écriture, donc le livre qu'a écrit Daniel Dumont, j'ai trouvé que c'était très cohérent ce truc-là. Et j'étais en rapport avec Daniel Dumont, en lui disant « Oui, mais c'est bien gentil, mais comment on fait pour trouver une police qui corresponde ?»« Ah, ben, il n'y en a pas !» Et puis, j'en suis restée là. Hein. Et du coup, j'ai trouvé, je ne sais comment, je suis tombée sur quelqu'un qui dessinait des alphabets et je lui ai demandé de dessiner mon alphabet en utilisant toutes les préconisations de Dumont, alors justement, l'histoire des boucles, etc., et des œilletons par rapport au R, au S. Et j'ai demandé à une de mes formatrices d'alors de bien vérifier si elle était d'accord, si cette police correspondait bien pour faire mon grand alphabet, parce que j'avais l'intention d'utiliser pour le grand alphabet. Elle m'a dit ça correspond, il y avait des petits changements qu'on a fait. Et puis, ma police, donc je l'ai appelée 1, 2, 3 Montessori. Cette police. Aujourd'hui, elle est donnée. Le monsieur, il l'a faite. Elle s'appelle Belle Allure. Et donc, c'est la police 1, 2, 3 Montessori qui a été donnée, que lui avait dessinée. Et lui, il l'a mis en accès libre sur Internet. Et elle s'appelle Belle Allure. Et donc, j'ai fait mon grand alphabet avec ça. Et donc, je disais que c'était. Selon les préconisations de Daniel Dumont. Et Daniel Dumont m'a appelé en disant « Mais comment pourquoi vous utilisez mon alphabet ?» Je ne savais même pas qu'elle avait fait une police d'écriture.
Ah oui.
Et voilà. Du coup, j'ai enlevé toute référence, même dans le texte qui explique comment j'ai formé mes lettres. toute référence à cette personne qui voulait vraiment récupérer
ben,
qui voulait vraiment récupérer comment ça s'appelle,
un copyright ou quelque chose,
un copyright, voilà, qui voulait que sur chaque alphabet, mais moi j'ai pas les moyens de donner sur chaque alphabet une petite gratte.
Oui, puis c'est ce monsieur qui avait développé cette police, enfin c'était pas la police du monde, donc
il ben non, et en fait non, ouais. De fait c'est pas la police du monde. Voilà. Bon, ça c'est une chose, c'est un petit, vous voyez, dans le cadre de tous les gens que j'ai rencontrés et de toutes de tous ces échanges que j'ai eus avec différents intervenants dans le monde Montessori. Voilà, le grand alphabet, il est peut-être un peu plus petit que celui que j'avais vu en formation. Et donc, avec Marie-Hélène Barbier, on a dessiné aussi les digrammes pour avoir les digrammes hanche ou mieux, etc. Qui soient vraiment bien avec les graphismes comme il faut, tout à fait fluides, comme le demande le geste d'écriture.
Oui. Mais tu disais que tu en parlais dans le contexte où il y avait un matériel que tu n'avais pas accepté de produire. Il y avait un alphabet mobile que tu n'as pas voulu commander, que tu n'as pas voulu faire.
Alors, j'ai cet alphabet-là qu'on m'avait demandé. Et puis, on m'a demandé de faire le grand alphabet, mais cette fois en majuscule, en capitale d'imprimerie. Et là... Eh ben, je suis un peu gênée par rapport à ce grand alphabet en capitale d'imprimerie qui ne correspond pas du tout. J'ai une petite formation Dumont avec le geste d'écriture, etc. Eh ben, ça va pas, ça colle pas, et je peux pas me résoudre à faire quelque chose que je ne comprends pas. Alors, il y a des choses qu'on m'a demandé et que je comprends, mais cet alphabet-là, eh ben, non, je peux pas. Donc, je fais pas le grand alphabet en capitale d'imprimerie. Ce serait peut-être une bonne idée commercialement parlant, mais je suis pas commerciale. Comme je dis souvent, je vends pas des petits pois, et vraiment, il y a une raison pour que quand je vends un matériel, il y a une raison derrière.
Voilà. J'imagine que c'est une demande qui devait venir d'un enseignant, non?
Oui,
c'était une enseignante. Mais le programme scolaire fait travailler, malheureusement, l'écriture en capitale d'imprimerie avant de travailler l'écriture cursive. Mais c'est vrai que c'est pour un matériel qui est censé faire travailler, là je ne cite pas Daniel Dumont, il est censé faire travailler le geste d'écriture. Effectivement, ça a moins de sens sur les capitales d'imprimerie.
Voilà.
Mais tu as quand même du coup travaillé avec beaucoup de gens. Tu citais Marie-Hélène Barbier. Je sais que tu as aussi effectué un énorme travail pour réaliser la frise de la vie Montessori.
Oui.
Alors moi, je la trouve formidable. Alors, elle est indestructible.
Ah, oui.
Indestructible. Mais je suis curieuse d'en savoir un peu plus. Comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as travaillé? Et puis, pourquoi ça représentait un tel travail? Parce que j'imagine que les gens ne s'imaginent pas forcément. La tour rose, c'est la tour rose. La frise de la vie, qu'est-ce qu'il y avait tant à travailler ou à retravailler dessus?
Alors, en fait, il se trouve qu'il y a une frise de la vie qui existe et qui est distribuée par, je ne sais pas qui d'ailleurs, mais bon, qui a été dessinée par un formateur à Amy. J'ai oublié son nom.
Adrien Roche?
Non, ce n'est pas lui qui l'a dessiné, c'est celui qui est canadien.
Ah, bref. Et son nom m'échappe aussi.
Oui. Bon, c'est pas très grave. Et donc, c'est un modèle que je ne voulais pas copier, puisque c'est le sien. Je voulais pas copier son matériel. Et puis, c'était quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup, parce que c'est très parlant, et comme tu dis, c'est un matériel avec lequel on a vraiment envie de travailler. Donc, je voulais la faire. C'est un très gros travail, parce que des illustrations, eh ben, soit on les trouve en photo. Bon, il se trouve quand même qu'on n'a pas beaucoup de photos des animaux préhistoriques.
Étonnamment.
Bon, on aurait pu mettre des restes des photos de,
comment de dire, fossiles.
De fossiles ou de choses qu'on a retrouvées, mais
c'est moins
ça ne permettait pas de se rendre compte de la taille. Et, et je voulais qu'on le voie en entier. Il y avait aussi, il y a un énorme travail. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec Marie-Hélène Barthier sur ce projet-là. Il me semble que dans la frise de l'AMI, les temps géologiques, je dirais peut-être des bêtises, mais qu'on ne respecte pas forcément cette histoire de, d'abord des couleurs, de la classification internationale pour les aires géologiques. Et ça, je voulais que ce soit cohérent avec ce qui est utilisé d'une manière, pas forcément en Montessori, mais il y a les aires, elles ont des couleurs avec une nomenclature internationale, et je trouve ça intéressant de travailler avec cette nomenclature internationale.
Alors que Maria Montessori, c'est dans les années 50 qu'elle a pensé ce matériel. Il y avait sans doute pas encore ces nomenclatures.
Sans doute pas. Et de fait, en fonction des découvertes géologiques, on découvre des nouvelles choses, et c'est très bien. Donc, c'est un matériel qui est en évolution, c'est normal qu'il soit en évolution.
Oui, il faut le mettre à jour régulièrement. Ouais.
Voilà. Donc,
pas tous les ans, mais.
Non, non.
Régulièrement quand même.
Voilà. Donc, d'une part, il y avait cette exigence que j'avais moi. Bon, j'ai travaillé avec Marie-Hélène.
Donc, Marie-Hélène Barbier, qui est formatrice, elle aussi.
Formatrice sur Lyon, oui.
Ah oui.
Et puis, dans mes contacts, j'avais aussi Juliette Danjon-Vallon, qui, elle, s'occupe plutôt de public Montessori en Haute-Savoie.
Et qui est formatrice.
Et elle aussi, enfin, je trouvais qu'elles avaient toutes les deux un point de vue à apporter. Et puis, il fallait les illustrations. Et j'ai la grande chance de travailler avec le fils de Géraldine Maisonneuve, qui elle, c'est Montessori ici.
Oui.
Géraldine. Voilà. Et lui, il avait fait des études de botanique, enfin de biologie. Il a un super coup de patte, et il m'a fait tous les dessins. Ce qui fait que, comme lui a fait tous les dessins, ça aussi, c'était moi, j'avais cette exigence-là, c'est que je voulais que ce soit cohérent et que ce soit tout le même illustrateur qui passe, pour qu'on ait une ligne, en fait. Voilà.
Mais quelle chance, parce que c'est pas de... Il faut pas juste des compétences de dessinateur, c'est du dessin scientifique.
Oui, c'est ça.
Il faut avoir la double compétence biologique, zoologique. Et
comprendre pourquoi on fait les choses, l'avantage que comme... Oui. L'avantage de ce jeune homme, c'est que comme on était, c'est Hugo, avec Hugo, c'était chouette parce que il avait sa maman qui est quand même très très montessorienne, et donc il avait le regard montessorien, le regard scientifique, et en plus il a un coup de griffe super. Bon, bah, ça fait, c'est grâce à lui qu'elle est si belle cette fille. Hein, je me fais pas d'illusions.
Non, mais c'est beau comme ça quand des Montessoriens se regroupent, même s'ils ne sont pas du tout dans le même coin, et ensemble coopèrent.
On fait avancer les choses.
Celui-là. Oui.
Voilà.
Magnifique. Alors, il y a beaucoup de matériels hein, qui ont un sens particulier. Est-ce qu'il y a un matériel sur lequel tu voudrais revenir pour nous expliquer pourquoi il est comme il est, c'est-à-dire pourquoi il a telle caractéristique. Il nous a parlé du poids tout à l'heure, de la tour rose, qu'il fallait un bois qui soit très dense comme le hêtre pour qu'on sente le poids. Est-ce qu'il y a un autre matériel où tu voudrais nous donner cet exemple, de nous dire pourquoi il est fait comme ça et pas autrement?
Je pourrais peut-être vous parler du damier. Le damier de la multiplication, donc c'est un grand morceau, le damier. Avec des cases rouges, vertes, bleues, voilà, c'est un damier de rouge, vert et bleu. Et avec, on fait des multiplications avec les barrettes de perles. Mmh. J'ai choisi de faire le damier avec des grandes cases pour que la barrette de 9 perles, elle tienne entièrement dans la case.
Mmh.
Et puis, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, Il me semble qu'à la source, elle faisait ça aussi. Elle demandait de faire ça. Le fond, les cases ne sont pas peintes, elles sont recouvertes de feutrine, ce qui fait que les perles ne glissent pas trop.
Oui.
Et avec des mains malhabiles, parce que le damier, c'est quand même un matériel qu'on peut commencer encore, alors que l'enfant est encore en maternelle.
Oui.
En grande section, certes, mais quand même, c'est un matériel de maternelle. Et si le bois est parfaitement verni, les perles, elles vont glisser, le résultat sera faux. Et c'est très décourageant pour l'enfant de... Alors, même si on ne vérifie pas toujours les résultats, et je suis bien la dernière à demander aux enfants que je suis de faire leur vérification, mais ils ont quand même besoin, des fois, de voir si c'est cohérent ce qu'ils ont trouvé. Et si c'est faux parce que le matériel n'a pas aidé, il y a un problème. Donc,
pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le damier de multiplication, c'est que chaque case, suivant la case dans laquelle on va poser les barrettes de perles, elles vont représenter une quantité différente. Donc, si elles sont dans une case, notre barrette de 9 va peut-être représenter 9 unités ou peut-être 9 dizaines si elles roulent sur la case d'à côté. Donc, forcément, ça change le résultat du calcul de la multiplication.
Voilà. Et du coup, j'ai fait vraiment ce choix d'avoir des grandes cases qui sont recouvertes avec la feutrine de couleur pour que le travail soit facilité pour l'enfant et que parce que le but c'est qu'il arrive lui-même à le faire, pas que l'adulte cale les perles de son côté.
Oui.
Voilà. Ça c'était ça c'est un matériel et donc j'ai choisi. Il est vraiment très très grand. Gagner la multiplication. Alors, c'est très casse-pied à expédier.
Ah, j'imagine, oui.
Et surtout aujourd'hui, ils nous cassent les pieds, ils ont modifié. Enfin, avant, on n'avait pas ces problèmes-là. Aujourd'hui, je ne pourrais plus. J'ai fait un temps les grandes barres comme tes barres sur
les barres rouges et bleues, là. Voilà.
Je les ai faites à un moment. Je ne les fais plus, mais heureusement, parce que je ne pourrais plus les expédier.
Ah,
parce qu'il faut une caisse qui fasse au moins un mètre. Et si l'on veut caler quelque chose qui fait un mètre, il faut un emballage un peu plus grand.
Bien sûr.
Et les transporteurs ne veulent plus. Donc, on est coincé, en fait. Ou alors les mettre en travers.
Ouais.
Donc, ça, c'est une chose. Donc, le damier, il est très grand. Et il y a un deuxième damier qu'on appelle le damier des décimaux et qui sert plus tard. Et alors celui-là, il ne tenait vraiment pas dans une caisse.
Ouais.
Donc j'ai été obligée de réduire. Et ça, là, j'ai fait une concession à l'expédition. J'ai été obligée de réduire la taille des cases.
La manipulation peut-être après aussi, parce qu'il faut aussi pouvoir le manipuler, le transporter pour le poser.
Oui, voilà.
Là
donc, pour que ce soit cohérent, j'ai préféré, alors, bon, le damier de la multiplication, il faut bien savoir, c'est des enfants de maternelle. Le damier des décimaux, c'est plus grand. Donc, je pense que c'est différent. Alors, pareil, il y a de la feutrine, comme ça, c'est bien calé, etc. Mais les cases sont un petit peu moins grandes et du coup, la barrette, eh ben, elle tient moins largement.
Oui.
Ouais, elle tient moins largement. Donc, voilà. Ça c'est ce que je voulais te dire par rapport aux adaptations.
C'est ça qu'on s'imagine pas, hein, tout ce qu'il y a comme ça derrière, les contraintes liées à la boutique, le fait qu'il faut expédier, il faut réussir à faire fabriquer, et les contraintes pédagogiques qui sont extrêmement importantes aussi.
Ah bah oui, et sur lesquelles on... Il y a des choses, je le sais, par ma formation, et puis pour en avoir parlé avec les formateurs, il y avait des choses, c'était impossible d'aller outre, quoi.
Oui.
C'est une caractéristique majeure du matériel. Bon, ben voilà.
Oui, sur quoi est-ce qu'on peut transiger et sur quoi il faut rester absolument fidèle. Mais pour ça, il faut se former, hein. C'est sûr que c'est un travail.
C'est amusant parce que il y a un matériel que donc moi j'avais travaillé avec au départ et puis avec tous les gens qui ont été formés à la source, c'est l'escalier, là,
l'escalier marron.
Le serpent.
Le serpent, oui.
Et le serpent, moi, j'ai appris que chaque quantité était bien rangée dans sa case.
Mm-hmm.
Et Juliette m'a demandé de faire une boîte où tout est mélangé et en plus où tout peut se compter. C'est-à-dire que l'enfant se dit un jour, bon, on travaille bien sur le serpent, on fait plein de serpents.
Oui.
Le serpent, c'est un matériel qui permet de, bon, je vais aller vite, mais il permet de beaucoup travailler le complément à 10.
Oui.
Bon. Et dans la boîte que j'avais vue en formation, il y avait 10 de chaque. Donc, 10 unités, 10 1, 10 2, 10 3, etc. Et 10, 10. Seulement, quand vous mettez toutes les perles, d'abord, ça vous fait un serpent immense.
Ah oui.
Mais avec 10, 10, vous ne pouvez pas calculer la quantité du serpent.
Alors, j'ai expliqué, en fait, on remplace, au fur et à mesure où on compte les perles, on remplace les barrettes de couleur par les barrettes de 10.
Voilà, c'est ça. Ça fait le compte, en fait. C'est le complément à 10.
Et c'est évident qu'en ayant 10 barrettes de 9 plus 10 barrettes de 8 plus 10 barrettes de 7, mais on a beaucoup plus que 10 barrettes de 10.
Voilà.
Ah oui.
Et donc, cette formatrice, elle m'a dit, mais en voyant les enfants utiliser ce matériel, j'ai bien compris qu'il y a un jour où ils font des serpents qu'on leur propose et après ils se les font, mais il y a un jour où ils renversent la boîte et disent, eh ben alors, combien y a-t-il de perles dans ce serpent? Et donc, elle m'a demandé de faire un matériel où on peut compter. Donc, il y a quatre, je crois qu'il y a quatre de chaque.
Mmh.
Peut-être pas pour les cinq, oui, enfin, bon, je crois pour les cinq aussi. Il y a quatre de chaque. Et puis, il y a assez de 10 pour compter
toutes les barrettes de couleur.
Pour arriver au total de combien y a-t-il de perles dans ce. À quel nombre on arrive avec ce serpent. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi.
Oui.
Parce que, alors tout à l'heure, on parlait du matériel Montessori. Est-ce que c'est figé dans. Eh bien, c'est pas forcément figé dans le marbre. Si on arrive à ce genre d'observation, eh bien, c'est intéressant aussi.
Mais voilà. C'est ça, c'est que ça part de l'observation des enfants. C'est exactement le processus de Maria Montessori. C'est d'abord j'observe et je vois ce que les enfants font et ensuite je m'adapte. Et on a toujours eu dans la pédagogie Montessori ce qu'on appelle les extensions. C'est-à-dire qu'il y a un matériel, il y a une première présentation et puis il y a des extensions. Par exemple, le fait de réunir la tour rose et l'escalier marron, c'est une extension du travail de ces deux matériels. Donc voilà. C'est extrêmement intéressant mais d'être partie justement de ce qu'elle avait observé des enfants.
Oui, oui, c'est ça.
Ah, c'est très chouette. Et je sais que tu as aussi développé toute une gamme pour le Nido. Oui. Comment est-ce que tu as travaillé pour ça? Je sais que tu as travaillé avec deux formatrices. On l'a évoqué un peu en préparant cet entretien.
Alors voilà, c'est Juliette qui a décidé d'augmenter sa formation. Elle faisait déjà, je ne sais pas exactement, je crois qu'elle forme en 3-6, peut-être un peu en 6-12. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises. Tu peux aller sur son site et elle a voulu faire le Nido, mais pour le Nido elle trouvait pas de matériel, donc elle m'a demandé de faire ce que je pouvais pour le Nido et donc tout c'était un sacré défi hein, parce que
oui.
Y a des tas de choses avec des tiroirs, des enfin on n'imagine pas. Au départ, quand on se met devant l'ordinateur et qu'on décide de dessiner un matériel, il est à plat. Hein. Donc, faut le voir en relief, il faut envisager comment faire. Par exemple, la boîte à un bucard, c'est un nom anglais, mais des emboîtements où on a.
Ah, je pense qu'il y a un nom italien, moi. Je faisais
une en tout cas, c'est pas un nom français.
Oui, tous les emboîtements.
On a un cube, ou alors une boule, ou alors un pavé triangulaire à rentrer dans le. Et elle voulait que la boîte soit polyvalente, c'est-à-dire qu'elle puisse servir pour n'importe quel matériel. Et donc, réfléchir pour faire en sorte. Que n'importe quel matériel, enfin que je puisse changer la languette, sachant que moi
ah oui,
j'avais
au-dessus,
oui
avec
c'était posé au-dessus en fait
ouais.
sur le matériel chinois, c'est posé au-dessus et pour l'avoir utilisé avec ma fille, j'ai trouvé que c'était pas du tout cohérent. Alors, on mettait un scotch.
Oui, même chose. Alors, c'est rigolo parce que c'est du matériel qu'on trouvait chez Oxybul ou Nature et Découverte.
Oui.
Ces fameuses boîtes. Et c'est là qu'on se dit, ça n'a pas été testé avec des Montessoriens, parce qu'un Montessorien aurait tout de suite vu le problème. Il y a une version où la boîte, effectivement, le couvercle n'arrête pas de s'enlever. Même chose, moi, je mettais du scotch de peintre dessus pour le fixer. Il y a une autre version où il se glisse, donc c'est mieux. Mais il y a aussi une version où il y a donc un tiroir. Et en fait, le tiroir est fait de telle façon que quand on repousse le tiroir, il se bloque et il faut le soulever pour finir de l'enfoncer. Ce qu'un enfant de moins de 3 ans est totalement incapable de faire.
Ah oui.
Donc, c'est le chaos absolu. Et c'est là qu'on voit que même des grandes entreprises, enfin, Oxybul, Nature et Découverte, oui. Je ne sais pas combien d'employés ils ont, mais bah, ils n'ont pas réussi à aller consulter un vrai Montessorien pour se poser ces questions-là.
Ouais. Alors, du coup, moi, j'ai fait la version qui se glisse par-dessous.
Oui.
Et je pense qu'il faudra mettre de la pâte à fixe ou quelque chose pour maintenir. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on a une boîte et puis qu'on fait toutes les formes à introduire.
Oui, puis donc, les enfants vont pas tellement tirer. Enfin, c'est subtil quand même de le tirer pour le retirer quand c'est,
oui.
C'est glissé comme ça à l'intérieur. C'est pas comme quand c'est juste posé dessus ou là.
Ah, mais juste posé dessus. Voilà. Bon, bref.
Ouais.
Et voilà. Et du coup, j'ai tout sorti. On a dessiné tous ces modèles avec mon mari l'année dernière. On les a testés, je les ai montés, tout ça. Et je voulais avoir le regard de quelqu'un d'autre, parce que j'aime bien pour du matériel très spécifique comme ça, avoir deux regards.
Oui.
Et donc, on s'est donné rendez-vous avec Juliette et j'ai invité Claire de Gérard, qui, elle, fait des formations aussi pour les tout-petits. Son site, ouais. Pour venir discuter ensemble du matériel et de comment elle le voyait et quelles modifications elle voulait que je fasse. Parce que c'est bien c'est exactement ce que tu dis d'Oxybul. Moi, j'ai mes contraintes.
Oui.
Mais à l'usage, il y a d'autres contraintes. Et c'était important d'avoir aussi leur retour. Parce que moi, j'ai mis mes contraintes dans le matériel que je leur propose. Mais voilà.
Et c'est là où plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Parce que des fois, on ne voit pas certaines choses qu'un autre va voir. D'être deux, c'est extrêmement précieux.
Et elles ont apprécié de se rencontrer.
Mmh.
Parce que c'est vrai que les formateurs entre eux, ben, quelque part, ils sont sans doute un peu concurrents. Donc, ils n'ont pas de raison de se confronter l'un et l'autre. Et je suis la seule personne à pouvoir être ce point de jonction, en fait.
Ouais, faire le lien parce que tout le monde y trouve son intérêt. C'est-à-dire que quand on peut recommander un site de matériel où on sait que le matériel va respecter les critères que nous, formateurs, on défend, là, une certaine qualité de matériel, ben, forcément, on est gagnant aussi.
Voilà.
Et puis c'est vrai qu'heureusement qu'il y a quelques groupes Facebook où les formateurs peuvent un peu discuter, se retrouver, mais on en a peu l'occasion, je confirme, c'est dommage.
Voilà.
Et alors, comment vois-tu l'évolution du public qui pratique la pédagogie Montessori ? Est-ce que, enfin, qui aujourd'hui s'intéresse et se forme à cette pédagogie ? Et pourquoi ?
Alors, pour les formateurs, enfin, je pense que c'est plutôt toi qui sauras dire qui se forme. Moi, qui achète ? Malheureusement, j'avais un gros public d'école à la maison. Comme l'école à la maison est presque interdite dans les fêtes. Je pense que j'ai beaucoup moins de travail de ce côté-là. J'ai des écoles, donc je pense qu'il y a des écoles. Il y a de la demande aussi. Tout à l'heure, j'étais en lien avec une autre formatrice qui, elle, forme les écoles privées, donc les enseignants des écoles privées qui sont en poste.
Ah oui, formation continue.
Voilà, et elle avait l'air de dire qu'elle avait beaucoup de demandes. Je pense que c'est les enseignants aujourd'hui, surtout. Il y a quelques écoles Montessori, mais une fois qu'on a son matériel, en fait, on n'a plus besoin de le changer.
Oui, c'est très bien. Ça dure extrêmement longtemps. Hein.
Voilà, donc j'ai pas. Enfin, tant mieux. Heureusement que que mes clientes du début, elles ne sont pas obligées de changer leur matériel au bout de 10 ans. Enfin,
oui, oui, bah moi, mon matériel, il a plus de 10 ans et effectivement, j'ai jamais renouvelé mon matériel.
Voilà, et j'ai des classes, j'ai des institutrices qui ont utilisé mon matériel depuis 10 ans et ne bougent pas.
Mm.
Donc voilà, bon, après, il faut que les enfants soient soignés, mais c'est aussi dans la posture de l'éducateur, c'est aussi, voilà.
C'est ça. Et puis, ben, on revient à la tour rose, un cube en hêtre, il ne s'abîme pas de la même façon qu'un cube, je ne sais même pas en quoi ils peuvent être faits, les autres, mais qui, effectivement, marque tout de suite dès qu'il y a un choc et qu'il va falloir remplacer quand même assez rapidement.
Bon, alors c'est, je vais parler contre moi, mais quand on voit les photos de Maria Montessori avec ses cubes de la tour rose, franchement, leurs angles, les coins, hein, ils sont bien usés.
Oui, aussi. Mais ils ne sont pas marqués. Enfin, un cube en lettre, on peut toujours repasser un petit coup de peinture.
Mmh.
Alors que les cubes plus légers, on peut pas passer un coup de peinture. Ça marche pas de la même façon.
Bah, si c'est toi qui as fait ta peinture, tu le peins. Et puis s'il y a un accroc à réparer, bah, tu remets un. Mmh. Ce sera la même peinture. Mais si c'est tu ça. L'as acheté tout peint, bah, tu es obligé de tout repeindre.
Oui, exactement.
Mais c'est pas rigolo.
Non, surtout entre les petits cubes, les grands. Oui, enfin bon. J'ai peint les barres, j'ai bleu, je... c'était déjà un gros travail. Je sais aussi que tu proposes un peu de matériel pour la catéchèse du Bon Pasteur, qui est elle aussi issue de la pédagogie Montessori. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois se développer en France?
Alors, je sais que c'est très difficile. Moi j'ai juste deux, trois puzzles. Qui mmh. correspondent au Bon Berger, Bon Pasteur.
Les portes chasubles aussi, il me semble.
Et les portes chasubles aussi. Mais c'est parce que c'était du matériel que je voulais avoir, et donc je l'ai fait. Après, on en a parlé avec la personne qui a ouvert le marché du Bon Berger, qui se trouve être un ami. Et j'ai. Étant donné que je n'étais pas formée et que je n'avais pas le temps, et je pense que c'est. On a chacun son chemin. Moi, c'était vraiment les enfants et l'enseignement Montessori de base. Ça m'intéressait moins le catéchisme, alors que j'ai fait des années de catéchisme, mais je crois que je ne me suis pas sentie catéchiste dans l'âme. Ce que j'aime vraiment, c'est faire du soutien scolaire, et avec la méthode Montessori, ça marche du tonnerre de feu, donc ça me va. Pour moi. Et du coup. Je trouve que c'est très bien que Vincent ait son travail avec le marché du Bon Berger et que moi, je reste de mon côté en n'empiétant pas sur son domaine. Et j'en resterai là. Bon, j'ai fait la carte de Palestine, enfin, je sais pas comment on peut dire, de Terre Sainte.
La Terre Sainte, oui.
J'ai fait donc deux puzzles avec le cycle du temps que je trouve très parlant et qui vont bien aux enfants, pour lesquels j'ai fait faire les dessins justement pour qu'ils soient à moi. Et donc le porte-chasuble, parce qu'on avait fait des chasubles et je voulais apprendre à ma fille l'histoire des chasubles. Et je me suis arrêtée là.
D'accord. Ouais. C'est formidable, je trouve, justement, de te travailler en bonne intelligence dans l'écosystème montessorien sans. Ouais, travailler en bonne intelligence, sans chercher à se marcher dessus, sans être en rivalité, mais en.
Oui, voilà.
Chacun son domaine.
Exactement.
Et ça n'empêche pas d'avoir de bonnes relations.
Ouais, Vincent, il a été formé à la catéchèse du Bon Berger, donc quand il vend du matériel du Bon Berger, il sait pourquoi il demande. Donc c'est ça qui est important.
Ok. C'est vrai que je vais finir un peu là-dessus. Il y a trois choses que j'aime beaucoup dans la boutique 1, 2, 3 Montessori, c'est le côté éthique. La première chose, c'est vraiment une entreprise française qui produit les matériels avec des choix qui sont responsables. C'est quand même beaucoup plus local que de faire venir son matériel de l'autre bout du monde. La deuxième chose, c'est que j'apprécie vraiment beaucoup l'ouverture et le sérieux pédagogique dont tu fais preuve. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on trouve du matériel pour tous les âges, quoi, du nido aux adolescents, y compris du matériel plus rare, comme les puzzles des biomes, que je n'ai trouvé nulle part ailleurs sur des sites français. En tout cas, à l'époque où je les ai commandés. Et c'est vrai que c'est formidable d'avoir comme ça une boutique avec tout ça réuni au même endroit. Et j'étais un petit peu curieuse. Pour finir, quelle était la commande peut-être la plus étonnante que tu as pu recevoir?
Alors, c'est pas une commande, mais je crois qu'il s'appelait, enfin, il s'appelait Alain, ou je sais plus. C'est un homme qui m'a commandé, mais une fois, une grosse commande, et puis encore une autre grosse commande, sur un mois et demi ou deux mois. À l'époque, on travaillait avec ma fille, et elle disait, oh, il y a encore une commande de Alain aujourd'hui. Alors, au bout d'un moment, en fait, j'ai fini par lui envoyer un message en lui disant, mais Alain, vous avez commandé toute la boutique. Et en fait, j'étais très touchée parce que cet homme était enseignant. Mmh. Et il s'était formé à la pédagogie Montessori, je crois qu'il travaillait dans une école publique. Et il a fait des économies, mais beaucoup d'économies, hein, parce que
oui.
Il a acheté tout le matériel pour faire lui-même. Donc ça demande un travail de dingue pour ouvrir, pour avoir dans sa classe. Donc le matériel lui appartient, c'est celui oui. qu'il a acheté. Souvent c'est les mairies qui payent. Donc là c'est oui. son matériel. Il s'est formé, il a acheté son matériel, il a fabriqué son matériel. Pour pouvoir proposer cette pédagogie dans son école, alors qu'il est le seul à pratiquer cette pédagogie dans son école. Et c'est pas une commande étonnante, mais c'était une belle rencontre parce que du coup on a eu quelques échanges et j'étais vraiment touchée
oui.
qu'il choisisse ma boutique pour faire pour équiper sa classe. Voilà.
Et puis même si on devrait pas attendre ça des enseignants, quand il y a des enseignants qui font preuve d'un tel dévouement, c'est
oui.
effectivement c'est touchant et c'est admirable.
C'est touchant, vraiment touchant. Ouais. Alors c'est une commande touchante. Voilà.
Alors merci d'avoir partagé ça parce que c'est un... ça va éclairer ma journée, je pense aussi. Avant de clore, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais aborder dont on n'a pas encore discuté, que tu voudrais mentionner avant qu'on se quitte?
Je crois qu'on a vraiment beaucoup parlé de Montessori là.
Mais oui, mais c'est passionnant.
Ah, si. Si quand j'envoie le matériel, quand j'expédie mes commandes, il y a un petit message. Alors je le réécris pas à chaque fois, hein, je colle juste le numéro de la commande pour que la cliente puisse aller faire le suivi. Mais je demande si c'est possible de m'envoyer des photos du matériel fini, parce que j'aime bien voir le matériel soit en situation, pas avec des enfants évidemment, mais voir le matériel, voir comment vous vous l'êtes approprié. Et alors, étonnamment, au début d'un de trois Montessori, je recevais souvent des photos. Et là, j'en reçois plus du tout. Alors, je suis un peu triste. Il me dit, j'espère que mon matériel y sert. Ça ne sert à rien de l'acheter si on ne le montre pas.
Alors, petit message à tous ceux qui, et moi la première, tous ceux qui ont du matériel Montessori et t'envoyer des petites photos, où est-ce qu'on peut les envoyer?
Alors, pour me contacter, c'est contact@123montessori.fr.
OK.
Formulaire de contact. Et aussi, alors, je ne veux pas me substituer à un formateur, mais il se trouve que ça m'arrive d'avoir des questions de la part des clients qui voudraient savoir, pour les tables de multiplication, quel matériel vous recommandez. Enfin, ça, c'est la question type, mais il peut y en avoir d'autres. Et je veux bien répondre. Ce sera pas une formation, ce sera pas, je vous enverrai pas une fiche avec une présentation type, etc. Parce que je pense que ça, c'est les formateurs qui le font. Mais je veux bien vous aider à choisir, prendre le temps d'un coup de fil si c'est nécessaire. Mais on prend un rendez-vous téléphonique parce que je suis pas toujours libre. Mais ça me plaît aussi de rencontrer mes clientes de cette manière-là.
Ça me fait penser aux jeux de société. Moi, je suis très fan de jeux de société et il n'y a rien de mieux que d'aller en boutique se faire conseiller parce que les gens sont passionnés, parce qu'ils connaissent leur métier et effectivement.
Voilà. Yeah. Bon, je n'empiète pas sur les formateurs.
Non, mais pas d'inquiétude. Et donc, où est-ce que les gens peuvent en savoir plus sur ton travail? Est-ce que c'est sur le site 123montessori.fr?
Oh, oui, sur 123montessori, vous avez déjà toute ma gamme de disponibles. Alors, n'hésitez pas à beaucoup le fouiller parce qu'il y a énormément de choses et on n'imagine pas tout ce qu'il y a. Et puis, comme on a pas fait d'un seul coup, si vous voulez.
Oui.
Il y a eu beaucoup d'ajouts petit à petit, et peut-être que c'est alors pas cohérent, je sais pas. Et donc n'hésitez pas à fouiller. Et puis donc si vous voulez me contacter, pas de souci, je suis ravie de répondre à vos questions.
Bah, formidable. Merci beaucoup Christelle pour cet épisode du podcast et la vidéo YouTube. Et
merci Anne-Laure.
Bah, de rien, et j'espère à très bientôt. Peut-être qu'on refera un jour un échange comme celui-là, parce que je vois que tu as plein de choses à nous partager autour du matériel Montessori, et moi je trouve ça passionnant. À bientôt.
Merci. Au revoir.